franceinter.fr. La science de l'environnement, en partenariat avec reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Ravages et mensonges de la pêche électrique aujourd'hui à la une de la science, alors que se prépare demain au Parlement européen un vote d'importance pour généraliser ou interdire cette pêche. L'association Bloom a dévoilé la semaine dernière que les dérogations qui permettent à quelques bateaux de pratiquer cette pêche ont été données contre l'avis des experts du comité scientifique de la Commission européenne. Axel, on discute des enjeux de ce vote avec nos invités.
Oui Mathieu, on est en duplex depuis le Parlement européen de Strasbourg avec Claire Nouvian. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondatrice de l'association Bloom de défense des océans. Et dans ce studio, on est avec Hervé Kempf, notre partenaire pour le magazine reporter.net. Bonjour Hervé.
Bonjour Axel.
Pour commencer, Claire Nouvian, vous êtes au cœur de l'action avant le vote de demain. Rappelez-nous d'abord un petit peu en quelques mots ce qu'est la pêche électrique.
Eh bien, c'est du chalutage de fond, donc des grands filets qui sont tractés et qui ont un fort impact sur le fond marin, qui désormais sont aussi équipés en électrodes, qui envoie un courant électrique qui permet de faire sauter des poissons qui sont en fait ils subissent une contraction musculaire tellement forte qu'ils sortent du sédiment comme du pop-corn. Et du coup le filet n'a plus qu'à passer pour récolter la pêche miraculeuse.
Et pour l'instant, dans le monde, qui pratique cette pêche ?
Alors ce sont les Néerlandais. C'est un problème qui est très circonscrit, très identifié. C'est un tout petit pays qui avait une flotte de pêche de chaluts à perche, c'est-à-dire des chaluts de fond, mais qui en plus avaient des chaînes qui sortaient les poissons plats du sédiment. Et cette flotte de chaluts à perche a évidemment un matériel très lourd qui consomme énormément de gasoil. Donc ils étaient sur la route de la faillite et ils ont trouvé l'astuce pour éviter la faillite. En fait, c'est d'utiliser du courant électrique. Donc eux, ils sont très très contents.
Alors, depuis 2006, ces Néerlandais ont l'autorisation, en tout cas la dérogation de pratiquer cette pêche. Et vous dévoilez vendredi qu'au moment de cette autorisation, de cette dérogation, les choses ont été faites de manière un peu bizarre. Racontez-nous.
Oui, alors on a un règlement, en fait, depuis 1998, qui dit très clairement qu'en Europe, il est interdit de capturer des poissons en utilisant du courant électrique ou des explosifs ou du poison, par exemple. Donc on a un règlement très clair. Et en 2006... est apparue cette possibilité d'utiliser le courant électrique qui était incompréhensible et qui dit en plus dans le règlement qu'il en découle que cette décision a été faite et prise à la lumière des avis scientifiques. Donc ça nous a mis la puce à l'oreille, on a cherché quand même comment s'exprimer les chercheurs pour conseiller d'utiliser de l'électrocution. Et en fait on a trouvé ce document qui était évidemment soigneusement caché, et qui dit exactement le contraire de ce que clame la Commission européenne et le règlement qui s'en est suivi. L'avis scientifique dit aucune dérogation ne doit être donnée tant qu'on n'a pas résolu un certain nombre de problèmes qui sont graves.
Avec M.
C'est-à-dire que quand Carmenu Vella, le commissaire européen aux affaires maritimes et à la pêche, dit, je le cite, « La Commission fait des propositions sur la base des avis scientifiques indépendants du Conseil international pour l'exploration de la mer et du Comité scientifique, technique et économique de la pêche », excusez-moi d'être long, quand il dit que ces deux conseils ont mis en évidence un nombre considérable d'avantages biologiques et écologiques de la pêche au chalut électrique, vous dites que c'est un mensonge en fait.
C'est un mensonge ça, pur et dur, ouais. Alors... Et d'ailleurs, la Commission européenne a menti à plusieurs reprises, parce que la semaine passée au Parlement à Bruxelles, on a organisé un événement politique avec plusieurs groupes politiques, et la Commission européenne a été fortement attaquée, notamment par Yannick Jadot, et elle s'est défendue en mentant de nouveau, mais là en faisant en plus, en commettant une erreur monumentale, en disant que les dérogations étaient en cours depuis 1998, alors qu'en plus c'est 2006, donc là il y a en plus un problème d'incompétence.
Ouais. Quels sont les arguments, Claire Nouvian, de la Commission pour défendre finalement cette pêche électrique? Parce qu'on se demande bien quels avantages ils peuvent y trouver.
Je vais vous dire, je pense qu'on est dans un moment de grande gêne politique, parce que tout ça s'est fait entre amis, sans que personne mette son nez là-dedans, parce que nous, on était, vous vous souvenez, occupés à se battre contre la pêche en eau profonde, et on peut pas courir après tous les lièvres. Donc ça s'est fait sans qu'on mette notre nez là-dedans, et maintenant qu'on est en train de révéler le poteau rose, je pense que c'est, il n'y a pas d'argument. Donc ils sont dans un moment de vide politique qui est très compliqué, parce que ça génère une espèce de déflagration dans le milieu justement des institutions quand on pointe du doigt une faute. C'est une faute. Mais donc il faudra qu'elle s'en explique devant les parlementaires et les citoyens européens.
En novembre, quand même, la commission spécialisée du Parlement européen était d'accord pour poursuivre cette pêche électrique. Comment vous expliquez sa position? Est-ce qu'elle va évoluer?
Alors, il y a un problème générique, global, qui est que la commission de la pêche du Parlement européen, qui examine les textes qui arrivent, les propositions législatives qui arrivent de la Commission européenne, avant qu'ils passent en vote en plénière, c'est une commission de 27 députés qui, en majorité, sont très proches des lobbies industriels, qui les ciblent de façon évidemment prioritaire pour obtenir ce qu'ils veulent. Donc ça, c'est un problème général qu'on a sur tous les règlements et qui parle de corruption morale très présente et très pressante et totalement inacceptable. Donc que les résultats des votes en commission pêche du Parlement soient mauvais, c'est totalement habituel. Mais en l'occurrence en plus, on aurait, je pense, pu obtenir des votes beaucoup plus favorables à notre position si on était rentré, nous, plus tôt en campagne. Or, nous, on était encore en train de récolter une masse fondamentale de science pour être sûr de pouvoir vraiment justifier une position forte. Maintenant, on est en effet en béton armé, mais on est arrivé nous-mêmes tard dans le processus. Il aurait fallu faire du lobbying, on va dire, depuis au moins un an pour obtenir une position favorable de la commission pêche du Parlement.
Si cette pêche est si efficace que ça, est-ce que les pêcheurs traditionnels ne pourraient pas crier à la concurrence déloyale, par exemple ?
Alors, ils peuvent dire ça. Ça fait partie de tous les problèmes qu'ils peuvent soulever et d'ailleurs au titre desquels il serait totalement légitime d'attaquer les décisions de 2006 qui a été reconduite plusieurs fois par la Commission européenne. Alors, c'est pas un one shot, comme on dit. C'est pas arrivé une seule fois par hasard. Non. C'est vraiment, il y a une volonté de donner raison et de favoriser une méthode de pêche, un groupe d'intérêts sectoriels très identifié, très petit, contre l'intérêt général. Donc oui, les pêcheurs artisans, de toute façon, on les voit, vous savez, peu. Enfin, c'est tout le problème de la pêche. C'est que, d'ailleurs, pas que de la pêche, de l'agriculture. Les petits producteurs, les petits pêcheurs ne sont pas représentés politiquement. Donc ils ont un vrai problème d'influence. On ne les entend pas, on ne les voit pas, en tout cas pas du tout suffisamment par rapport à la représentation des intérêts industriels. Ils n'ont pas du tout le même réseau politique, ils n'ont pas le même portage. Donc on est dans ce problème, on voit bien que les pêcheurs artisans, là, sur ce dossier, sont très mobilisés. Mais ils sont absolument seuls. C'est-à-dire que jusqu'à ce que nous, on arrive pour les défendre, pour les aider avec de la stratégie politique, je peux vous dire qu'ils ne sont pas du tout défendus par leur comité national. Et c'est la même chose partout en Europe.
Alors vous le rappelez... Non, allez-y, finissez. Vous vous rappelez quelque chose?
Oui, en fait, les comités nationaux qui sont donc ces comités sont des structures de représentation des intérêts des pêcheurs. Normalement, ils devraient représenter tous les intérêts de tous les pêcheurs, du plus petit au plus grand pêcheur. Mais on voit d'année après année que dans tous les pays européens, ce sont les intérêts industriels qui sont pris en compte et qui sont défendus par ces instances, qui sont devenus et leur illégitimité est en train d'être percé vraiment à la lumière, la grande lumière du jour. Quoi. Ça devient un scandale, je pense, qui ne tient plus.
Il ne reste plus beaucoup de temps. On vous pose une dernière question. Vous êtes optimiste pour le vote de demain? Vous allez réussir à faire interdire la pêche électrique?
Je pense que le vote de demain... En fait, aujourd'hui, on est en train de se battre. On va se battre sur chaque vote, chaque voix, ça c'est sûr. On est vraiment mobilisés. On a 11 pêcheurs qui sont venus de partout, qui sont en panique parce qu'ils voient bien la faillite arriver dans leur propre quartier maritime, à quel point les économies régionales sont en train d'être dévastées par ces intérêts lobby, industriels, etc. Maintenant, le vote de demain va être un révélateur des enjeux cachés et des positions cachées des uns et des autres. On va voir qui a soutenu, en fait, des intérêts industriels qui restaient un peu discrets jusqu'à ce qu'on arrive et qu'on devienne en fait efficace dans notre lobbying. Et là, on voit les masques qui sont en train de tomber. Et c'est pas joli, joli.
Merci beaucoup Claire Nouvian. Courage à vous parce que vous travaillez vraiment beaucoup et les nuits sont extrêmement courtes en ce moment. Donc pour ce vote demain à Strasbourg, à l'occasion donc de ce vote sur la pêche électrique. Merci beaucoup à vous. Hervé Kem fait un coup d'œil sur reporter.net. Qu'est-ce qu'on peut y voir cette semaine?
Eh bien à la une ce lundi, est-ce que le développement du trafic aérien peut se faire sans augmenter les émissions de gaz à effet de serre? Une question qui est en train de se poser quand on parle d'aéroport. Et la réponse est là, c'est non. Il n'est pas possible de faire Make the Planet Great Again en même temps que Make the Plane Big Again fait le gros avion.
Hervé Kempf en anglais, on l'adore.
Il y a un reportage au Nord Cameroun, mais là je ne sais pas parler le Camerounais ou le Nigérian. C'est sur des migrants qui ont fui Boko Haram dont on parlait dans le flash de 14h. Eh bien, ils reboisent pour éviter la déforestation aux alentours. Et puis demain, mardi, un reportage sur les pêcheurs dont nous parlait Clara Nouvian. Les petits pêcheurs à Dunkerque ne sont pas du tout d'accord, comme elle l'a très bien expliqué.
Merci beaucoup, reporter.net. Et Axel, on se retrouve demain pour la une.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, les océans capables de déplacer des rochers de 600 tonnes. Dans une étude publiée dans la revue Earth Science, des géologues ont observé le dépôt de plusieurs rochers, dont un de 620 tonnes sur la côte du nord-ouest de l'Irlande après une grosse tempête. Phénomène déjà observé à la suite de tsunamis ou d'événements tectoniques rares. Il pourrait se produire de plus en plus souvent, selon les chercheurs du Williams College dans le Massachusetts. Intensifié par le réchauffement climatique, les tempêtes capables de tels exploits risquent de se produire plus fréquemment. Il est donc important de mieux comprendre leur dynamique via ces dépôts. Les spécialistes seront en mesure de préciser les processus côtiers et certains modèles de tsunami. Les capacités de régénération des lamproies. Scientific Reports publie une étude sur les processus impliqués dans la cicatrisation de la moelle épinière chez ces poissons. Des chercheurs de l'Institut Feinstein aux États-Unis ont réussi à identifier les différents gènes mis en jeu. Ils constatent une modification de l'expression de certains d'entre eux dans la moelle épinière et dans le cerveau de l'animal. Nombre de ces gènes sont également présents chez certains mammifères. Des résultats suggèrent qu'ils pourraient également être utilisés pour la réparation, voire le développement de nouvelles thérapies chez les humains. Et puis plongez au cœur de la nébuleuse d'Orion dans une vidéo que vous pouvez retrouver sur le Facebook de la Tête au Carré. Des images prises par les télescopes Hubble et Spitzer vous font voyager au centre de l'une des plus brillantes nébuleuses observables depuis la Terre, distante d'environ 1400 années-lumière et pouvant être aperçue aux jumelles. Ce nuage avait été découvert vers 1610. Pour réaliser la vidéo, la NASA et l'ESA ont combiné des images prises dans le visible et dans l'infrarouge.